Les apprentis du bien nourri.
Question.
Qui lève le doigt ?
Alors, pas Noé, pas Karine, c'est l'heure que personne ne veut. Bon, et alors, toi, non, parce qu'il est malade. Gabi est malade. Juliette, il faut qu'elle aille travailler.
Moi, je dois aller travailler.
9h, Noé ?
Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas passé?
Il y aura Héloïse.
Ah oui, oui, vas-y.
Quel salaud. Ils n'ont aucune pitié.
Choisis ce qui est concerto, tu travailles.
Bonjour à tous, c'est Jérôme Pernaud, les apprentis du bien nourri. Nous sommes, comme chaque semaine, au moulin du bien nourri à Châtellerault, chez Minouche et Hervé. Alors Minouche et Hervé sont des amis plasticiens qui se mettent en quatre tous les mois pour nous recevoir, nous chouchouter dans leur belle maison. Et cette période de l'année, il commence à faire un peu froid dans la chaufferie. Alors la chaufferie, c'est une dépendance du moulin où se tenait le moteur du moulin pour faire tourner la turbine quand le courant n'était pas assez fort. Je le précise parce que évidemment, on ne peut pas savoir ce que c'est la chaufferie d'un moulin. Aujourd'hui, c'est une grande pièce, cette chaufferie, une grande pièce transformée en salle de cours pendant ses stages, en salle de concert. C'est tout en pierre, il y a une grande charpente en bois, magnifique, tout ça est absolument idéal pour l'acoustique. Et dans le moulin lui-même, on se retrouve tous au début du stage et on fait le planning. On décide des horaires de cours et comme vous l'avez remarqué, il vaut mieux être là à ce moment-là, sinon on risque d'être celui qui a cours à 9h du matin. Aujourd'hui, il se trouve que presque tous les élèves avaient à jouer du Haydn, c'est un pur hasard, donc on va en profiter pour parler du style classique. On commence par le cours de Juliette.
Il fait pas chaud ici quand même.
Refais ce début, vraiment ensoleillé, quoi. Contrairement à, au temps d'aujourd'hui, mais il y a vraiment du soleil dans ce ré majeur. C'est très étrange ce chromatisme. C'est quelque chose qui pleure.
D'accord.
Le joue pas de manière ordinaire, ça. C'est très bizarre à cette époque d'écrire un chromatisme descendant comme ça. Essaye de justifier par le geste. Parce qu'il manque une connexion entre le si et le ré. Dessine-le vraiment. Voilà. Et là, on repart sur autre chose avec le ré dièse à la basse. Le style classique, c'est ça. C'est qu'il y a un moment où tu t'épanches et tout de suite après, tu redeviens strict. Le sentiment peut déborder par moment, mais il y a toujours un moment où on recadre. Donc, Ça ne pleure pas assez, Donia. Galante, surtout pas régulier en fait. Très chanté. Voilà. C'est une manière de reprendre la parole. Hein? L'orchestre joue le thème. Toi, tu reprends la parole avec cette gamme.
Ouais.
Donc, il faut qu'elle soit très ronde, comme si tu prenais quelqu'un par la main. Suivez-moi. Tu ferais ce geste-là très rond avec le bras. Voilà. N'aie pas peur d'aller à ce fa. N'aie pas peur d'y aller. Et chante-moi. Voilà. Ah oui, ça commence à être très bien, ça.
Mais là, je sens mon corps se soulever.
Ouais.
Alors, j'essaie d'être bien dans le sol.
Voilà, donc je voulais quelque chose de plus physique, en effet. Est-ce que tu peux le mimer avec un geste? Chante et... Ok. Sans ton archet. Ok. Et maintenant, je joue le... En imaginant que tu fais le geste. Voilà, là c'est parfait. Ok, Juliette. Ok, ça c'est parfait ça. Là il y avait le geste.
Oui.
C'était vraiment juste du point de vue de l'articulation. Ouais, c'est bien ça. Oui, et là, ça c'est très très bien. Et ça, il faudrait que ce soit sur le temps. Ouais. Il y a toujours quelque chose d'un peu roubateau dans le triolet quand on est dans un mouvement binaire, parce que normalement, il n'y a pas la place de trois notes dans un temps. Il y a la place de deux ou de quatre. Et là, le fait d'en faire trois... Ça arrondit, si tu veux, le discours. S'il avait voulu quelque chose de carré, il aurait fait... Tu vois ? Alors que là, il veut vraiment... Triolet, que tout d'un coup ça devienne plus rond. Ouais. Et après, par contre, là on devient binaire.
D'accord.
Donc il faut que tu aies vraiment le contraste entre ya pa 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 roubateau du ternaire et rabatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapat Maintenant c'est sérieux.
La maîtrise de l'homme sur la nature, la symétrie, la droiture, rien ne dépasse du cadre classique. En architecture, on le voit bien. L'ornement, la rondeur, la fantaisie sont aussi foisonnants que dans le baroque, mais tout reste dans le cadre. Tout est en ordre. Diderot sort un livre dont les mots sont dans l'ordre alphabétique. C'est l'encyclopédie, bien sûr. Les lumières apportent leur lumière. Ils veulent éclairer tout. Ils organisent, théorisent, légifèrent, ou du moins donnent de l'esprit aux lois. L'esprit veut gouverner les émotions. La raison raisonne le sentiment. Alors, décrit comme ça, on pourrait penser que c'est froid. Mais pas du tout. C'est à l'intérieur de ce cadre que réside toute la liberté. Toute la liberté est possible. Tous les sentiments humains apparaissent. Sommet de beauté, sommet de la grâce, exprimé dans un cadre d'une finesse et d'une justesse extrême. Alors à l'intérieur, la couleur ronde de Mozart, traduite par Zacharias dans ce mouvement lent de cette sonate en fa majeur. On continue notre petite exploration avec Juliette sur notre sujet du jour, le style classique, avec le deuxième thème du concerto en ré majeur de Haydn.
Refais-moi ça, ce deuxième thème, là. Oui, c'est dommage que tu le fasses. fasse mourir avant qu'il soit fini. Ouais. Ça c'est super. Et ensuite, il faut que tu, pareil, toujours la même histoire, hein, justifie le fait de répéter cette note. Attention, toujours note répétée, note séparée. Comme sur un clavecin. Quand tu répètes la note, tu es obligé de relever le doigt et de la répéter. Forcément, elle va être séparée. Alors, en plus, là, tu as appoggiature. Donc, ouais. L'appui va être sur le mi. Mi, ré, ré. Et sépare un peu les deux ré.
Oui.
Comme si tu jouais au clavecin. Très bien. Voilà. Et fais gaffe de ne pas appuyer. Tirem, perum, pim, terum, porum, tirem, perum, pim, perum, porum, pam. Hein? Sur les temps forts. Et c'est là qu'il y a un silence, hein. Hein? Ici, il y a un silence. Attention. Oui. Attention de ne pas presser, même quand tu veux donner de l'énergie. Même si tu veux que ce soit très vivant, très piquant, articulé, ne presse pas pour autant. Ouais. Et t'as pas assez conscience que dans la période classique, un chromatisme descendant, c'est une espèce de dégueulando complètement décadent. C'est pas ordinaire. Comme un pleur baroque. Il n'y a pas assez les deux en deux. Et manieré. Ça, parfaitement bien.
C'est toi qui commence, c'est Louise ?
Non, c'est Karine, mais c'est pas possible parce que je joue à 9h40, mais je suis vraiment pas d'accord.
T'es pas d'accord ?
Non, parce que j'ai eu l'orchestre toute la semaine et j'ai travaillé 40 minutes par jour, j'ai pas du tout gâché un cours. vois, en allant faire mes gammes, là, parce que je l'ai pas vu jamais faire avant.
Et oui, c'est Héloïse, maintenant, qui travaille l'autre concerto de Haydn pour violoncelle et orchestre, celui en do majeur. Alors, l'élégance du style, c'est l'articulation, vous allez voir, la concision, et puis la distance aussi, même lorsque les éléments se déchaînent.
Là, il y a un passage complètement italien. Hein, c'est comme l'orage dans les quatre saisons. Quoi. C'est Vivaldi complètement, hein, ce passage-là.
Ouais.
Il y a un côté, Sturm und Drang. C'est la tempête. Quoi, hein. C'est les éléments qui commencent à se déchaîner sur ce la mineur. Et ensuite, on arrive vraiment vers la tempête. On sent le ciel tout d'un coup qui se rabaisse, qui devient complètement sombre. Les nuages qui se rapprochent. Et le coup de tonnerre. Hein, vraiment, de l'opéra. Opéra baroque. Avec le tonnerre. Il y a toujours un coup de tonnerre dans l'opéra baroque. Voilà. Et alors, joue bien les accords avec l'orchestre. Ça fait, si tu joues que les accords. Ouais.
Okay.
Et ensuite tu nourris le. Qui doit créer un effet. Ça fait ça. Hey. Ça gronde. Hein? Un petit coup de dynamique sur la syncope. Sur la syncope. Taille. Hein? Et je joue avec les modulations. La mi-ta-ta-ta-ta, la mi ta. On est revenu à la maison. Ah. Fameux. Septième diminuée. Attends. Oui. Et alors là, le doigté classique à l'époque de Haydn, c'est de mettre le pouce sur une note et de plus bouger. Rester en position.
Je suis d'accord avec toi.
Ah ouais, mais tu sais pas ce qui est bon. C'est ça qui est bon. Sur le mi pour qu'on entende bien ça. Oh, est-ce que t'as déjà entendu Anne-Sophie Fonauteur dans Ariodante? C'est à pleurer, c'est là, elle découvre, enfin il, parce qu'elle joue le rôle d'un jeune soldat qui... Il a vu celle qu'il aime embrasser un autre, et en fait c'était un déguisement, c'était une machination. Et il est au bord du suicide. C'est Anne-Sophie Fonauteur, quelque chose comme ça. quand l'émotion extrême finit par t'empêcher de parler.
Du style classique, on est allègrement passé à l'opéra baroque avec Marc Minkowski, dirigeant Ariodante de Handel. Mais en fait, le classique ne va pas sans le baroque. Il ne s'agit pas de deux choses parfaitement distinctes. La cohabitation baroque-classique, ça a duré deux siècles en peinture, en architecture, en littérature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXe siècle, on a quand même cette fâcheuse tendance à étiqueter, à simplifier, à mettre dans des catégories, mais c'est pas si simple. Et puis, il n'y a pas que baroque ou classique, il y a aussi d'autres courants, le style galant, le courant Sturm und Drang en Allemagne. En fait, il y a des personnes, des personnalités qui ne se soucient guère de rentrer dans des cases, les cases on les met après, mais qui offrent au monde ce qu'ils ont de plus beau. Alors on continue avec Héloïse.
Je connais ce thème là, je connais ça, mais c'est pas exactement pareil. T'as la pop. Dans le style classique, qui est assez important à savoir, c'est que toute note répétée devrait être séparée. Ça marche comme le...
Qu'est-ce que j'ai pas fait?
Comme pour le piano, tu vois. Sur le piano, enfin au clavecin, tu répètes...
Oui, d'accord, ok.
Ouais. Pom 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 pom. Cette pédale de sol, c'est comme si t'étais perdu. Tu sais pas comment t'en sortir. Et enfin... Tu comprends l'effet dramatique que ça fait, cette pédale de sol ? Sol, tom, pom, 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 pom. Et puis enfin, il y a le triolet qui va te faire sortir de tes gonds. Et là, ça va être... Le triolet, toujours, ça a quelque chose de rubato dans la mesure binaire. Toujours. Quelque chose de plus humain, de moins réglo, de moins militaire. Parce que deux fois de suite, la même chose. À Londres, moi j'appelle ça des music killers. C'est ceux qui jouent deux fois la même chose. C'est typique du style classique, c'est je m'épanche, la limite du romantisme, avec des chromatismes descendants, décadents, et tout d'un coup, rigoureux. C'est tu dis tout ce que tu veux dans la lettre, et puis après, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. C'est formel. C'est ça le classicisme. Si tu peux mettre tout ce que tu veux d'émotion, ça doit rentrer dans le cadre. Parce que tu es en train de te rendre compte qu'il y a une différence entre écrire quelque chose et puis travailler quelque chose. Et en fait, quand on a écrit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on peut le jouer.
Ah
Il faut le travailler comme si c'était pas toi qui l'avais écrite. Mais elle est très très bien ta cadence, elle est super. Et ce qu'il faut en fait pour qu'elle soit, pour qu'elle sonne mieux, c'est qu'il faut que tu l'écrives de manière plus métrique. Il faut que tu l'écrives à quatre temps, que ça tombe bien avec des appuis sur les premiers et sur les quatrièmes. Une cadence, on pense que c'est extrêmement libre. Oui, l'esprit d'une cadence, c'est libre. Mais pour l'écrire, il faut être très structuré. Il faut que harmoniquement, ce soit juste. Et il faut que métriquement, ce soit juste. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, puisque les harmonies fortes sont sur les temps forts.
J'ai jamais fait d'harmonie de ma vie.
Oui, mais tu entends. Tu écoutes de l'harmonie depuis que tu es toute petite.
Oui.
Donc tu sens si quelque chose passe mal ou passe bien.
Oui, oui.
Après, tu n'as pas les outils pour savoir comment faire pour que ça passe bien.
D'accord.
Et c'est là que tu t'aperçois, quand tu écris de la musique, que si tu as envie de moduler, par exemple, c'est super dur. Parce que tu n'as pas les outils. Parce que tu ne connais pas la grammaire. Il y a peut-être un petit problème dans l'éducation musicale. Oui. On se dit que ce serait pas mal qu'on apprenne aux petits à écrire la musique. Comme ça, ils pourraient mieux la comprendre. Et comme ça, quand tu joues une modulation dans une suite de Bach ou dans un concerto de Haydn, tu comprendrais la valeur d'une modulation. Mais là, déjà, en essayant de moduler et en voyant que tu n'y arrives pas, tu comprends mieux la valeur d'une modulation. Oui. Et la modulation, c'est ce qui différencie la musique populaire de la musique savante, justement. Quand Bach se met à écrire le clavier bien tempéré, parce que ça va lui permettre de moduler à loisir et dans les tonalités les plus extravagantes, les plus éloignées, et ben c'est là que ça devient vraiment de la musique savante.
Je suis très contente parce que je vais réécrire ma cadence pour qu'elle soit lisible, c'est-à-dire avec... j'ai tout écrit librement, il faut que je mette... Faut que je les mette sur quatre temps avec des vrais rythmes, que ce soit pas libre parce que sinon c'est pas possible de la jouer. Et puis j'ai m'a bien insisté sur le fait que dans Haydn, quand on répète les notes, elles sont détachées, donc je vais travailler ça pour demain.
Et oui, elles sont détachées parce que les syllabes, quand on parle, sont détachées. Et plus on parle avec élégance, plus les consonnes séparent les voyelles, et c'est pareil en musique. Les sons sont séparés par l'attaque de la note. Alors, le jeu est discursif. La musique parle dans les règles de l'art. C'est Jean-Pierre Collard qui a réalisé cette émission avec à ses côtés Noélie Pellegrin, Benoît Jégou et Hervé Desjardins. Vous pouvez nous réécouter toute la semaine, je le précise toujours, sur francemusique.com et nous faire une petite visite sur le blog du Moulin du Bien Nourri dont vous trouverez le lien sur le site de l'émission. Merci à Minouche et Hervé Sornik. Merci à notre pianiste, la lumineuse Karine Cello. C'est maintenant Dominique Boutel qui poursuit cet atelier de France Musique. Et vous retrouverez vos apprentis mercredi prochain à 13h. D'ici là, amusez-vous bien.